Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 6, Apollon, lumière, harmonie. Le plus beau jour du grec, à l'âge où la mémoire s'emprunt si fortement des grandes choses, c'était celui où il pouvait se joindre aux théories sacrées qu'on envoyait à Delphes, se mêler à la foule. Cette foule même était le plus grand spectacle du monde. 12 peuples à la fois, de toutes les parties de la Grèce, des villes, même ennemis, marchaient pacifiés, couronnés du laurier d'Apollon, et, chantant des hymnes, montaient vers la montagne sainte du dieu de l'harmonie, de la lumière et de la paix. Delphes, on le sait, est le centre du monde, le point du milieu. Jupiter, pour s'en assurer, des deux pôles, un jour lança deux aigles qui, justement, se rencontrèrent aux cimes du Parnasse. Tout ce pays d'âpres rochers, de précipices, de grottes obscures, habitées des génies inconnus de la terre, est, entre les contrées humaines de Thessalie, de Béotie, un monde à part, un sanctuaire sauvage que se sont réservés les dieux. À l'entrée, dans le défilé des Thermopyles, est le temple redouté de l'antique Cérès et de sa sombre fille qui garde la porte de la Grèce. Sur les vallées étroites, souvent noires et profondes, des rochers qui s'avancent de la grande chaîne en promontoire montrent dans la lumière leurs nids d'aigles qui sont des villes, des temples étincelants couronnés de statues. Ces combats du jour et de l'aube rappellent aux passants qu'il est dans des lieux mémorables où le beau dieu du jour, à l'arc d'argent, vainquit le dragon des ténèbres, Python, dont l'infernale haleine répandait la nuit et la mort. Apollon siège encore au lieu de sa victoire, sur les rochers qui en furent les témoins, lieu fatidique, austère, dont l'aspect seul élève, illumine, purifie l'esprit. Un lieu moins grand que grandiose. Tout est modéré dans la Grèce, à la mesure humaine. Le Parnasse, imposant sans être gigantesque, domine de son double sommet la belle plaine qui s'en va à la mer. D'en haut, il verse Castalie, pure et froide fontaine, d'eau virginale et transparente, digne de servir un tel temple, chaste comme les muses et leurs dieux. Phébus est un dieu solitaire. S'il aima Daphné, le laurier, ce fut en vain. Dès lors, il n'eut que deux amours, la mélodie et la lumière. À mi-côte, au-dessus de la ville de Delphes, pose dans sa majesté le temple. Autour, une enceinte peuplée de monuments que tous les peuples grecs, étrangers, dans leur piété reconnaissante, ont bâti là sans ordre. 100 petits temples y sont, trésors où les cités ont mis leur or sous la garde du dieu. En groupes irréguliers, tout un peuple de marbre, d'or, d'argent, de cuivre, d'airain, de 20 airains divers et de toutes teintes, des milliers de morts glorieux, assis, debout, rayonne, véritable sujet du dieu de la lumière. Le jour, c'est un volcan d'éblouissants reflets que l'œil ne soutient pas. La nuit, spectre sublime, il rêve. L'immortalité est sensible ici et palpable la gloire. Il faudrait qu'un jeune cœur fût déshérité à jamais du sens du beau pour ne pas être ému. Le premier sentiment est la bonté des dieux. Ils sont là, ces dieux grecs, de plein pied avec les héros historiques ou mythiques, sans orgueil, en bonne amitié. Tous ont entre eux un air touchant de parenté. Ulysse jase avec Thémistocle et Miltiade avec Hercule. L'aveugle Homère royalement s'assoit devant les dieux debout. Pindare, avec la lyre sacrée, la robe triomphale, pontificalement, chante encore. Autour de lui, ce qu'il a célébré, les vainqueurs d'Olympie, de Delphes, la Grèce leur est reconnaissante de la bonté qu'ils montrèrent ici-bas. Elle les remercie d'avoir, par le constant travail de la sculpture vivante, par la forme admirable réalisée Hermès, Apollon ou Hercule, et qui sait, Pallas, Jupiter. La statuaire perpétuait cela, le transmettait à images immortelles pour garder à jamais le trop rapide éclair où l'on vit un moment les dieux. Lorsque les yeux s'accoutumaient un peu à cette splendeur, regardaient une à une ces têtes divines, fièrement dessinées sur l'azur profond d'un ciel pur, quelle devait être l'impression de la Via Sacra, de la montée de Delphes, et que de grandes paroles le cœur devait ouïr de ces bouches muettes, quelles leçons douces et fortes, et quels encouragements! Les vainqueurs d'Olympie à leur chantre Pindare, du grand soldat de Marathon, Échille, aux Aristides, aux Épaminondas, des vaillants de Platée à la prudence des sept sages, forte et sublime chaîne où grandissait le cœur. Il entendait très bien, approche et ne crains rien, vois ce que nous étions, d'où nous partîmes et où nous sommes, fais comme nous. Sois grand d'actes et de volonté, sois beau, embellis-toi de formes héroïques et d'œuvres généreuses qui remplissent le monde de joie. Travaille, ose, entreprends, par la lute ou la lyre, chantre, athlète ou guerrier, commence, des jeux au combat, monte à enfant. La Grèce, en sa religion la plus fervente et la plus vraie, garde tant de raisons, un tel éloignement de l'absurde, de l'incompréhensible, qu'au lieu de donner la terreur de l'inconnu, elle marque la voie par où se fit le Dieu, le progrès qu'il a mis si haut, par quelle série d'efforts, de travaux, de bienfaits il gagna sa divinité. Une ascension graduée, non molle, mais austère, reste ouverte pour tous. Elle peut être ardue, difficile, mais il n'y a point de précipice, point de saut, point de roc à pic. Qui défend de gravir un ou deux échelons? Le novice, entrant dans le temple, devant la noble image, dans la présence même du Dieu, n'oubliait nullement les récits populaires que l'on faisait de son enfance. Phébus était né colérique, un dieu sévère, vengeur. Dans la sauvage Thessalie où il parut, son arc, souvent cruel, lançait des fléaux mérités. Dur pasteur chez Admète, humble ouvrier à Troie dont il bâtit les murs, il n'était pas encore le dieu des muses. Demi-barbare et dorien qu'il est d'abord, le génie ionique et l'élégance grecque l'adoptent, l'embellissent, vont toujours le divinisant. Athènes le célèbre à Délos. Chaque année, le vaisseau qui ramena Homère, les enfants délivrés, les porte à leur sauveur Phébus et il l'amuse de leur danse. Il lui danse le labyrinthe et le fil conducteur, le mêle et le démêle. Il danse l'enfance d'Apollon, la délivrance de Latone, sa bien-aimée Délos qui le berce au milieu des flots. Ainsi, le dieu des arts est lui-même œuvre d'art. Il est fait peu à peu, de légende en légende. Il en est que plus cher à l'homme et plus sacré. Il prend de plus en plus un cœur humain et grand. Cette large et douce justice qui, voyant tout, comprend, excuse, innocente et pardonne. À lui accourent les suppliants, les criminels involontaires, victimes de la fatalité, les vrais coupables même. Au reste, il vient, perdu, désespéré, tout couvert du sang de sa mère que son père lui a fait verser. Il est de près suivi, serré des Euménides, son oreille effarée sans siffler leur fouet de vipère. L'aimable Dieu lui-même, descendu de l'autel, conduit l'infortuné à la ville qui seule possède l'autel de la pitié, la généreuse Athènes. il le mène à Minerve. La puissante déesse, miracle inespéré, calme les Euménides, fait asseoir pour la première fois ces vierges épouvantables qui, jusque-là errantes, parcouraient, effrayaient la terre. Le culte d'Apollon ne naît point du hasard ni du vague instinct populaire. Dans ses formes les plus antiques, il a le caractère d'une institution d'ordre, d'humanité, de paix. À Délos, on ne lui offrait que des fruits. Les Athéniens, pendant ces fêtes, ne faisaient nulle exécution. Les jeux de Delphes, en leur principe, ne ressemblaient en rien aux autres. Ils respiraient le doux esprit des muses. La fête était inaugurée par un enfant. Bel enfant, sage et pur, gardé par son père et sa mère, digne de figurer le dieu. On le menait en pompe, au son des lyres et des cithares, dans les bois de laurier qui croissaient près de là, et le jeune Apollon, de sa main virginale, coupait, pour l'ornement du temple, les rameaux de l'arbre sacré. Les combats n'étaient qu'un concours de lyres, de chants. On chantait surtout la victoire du dieu de la lumière sur le noir dragon de la nuit. Les femmes, dans la liberté sainte des mœurs primitives de la Grèce, se mêlaient au concours. On voyait au trésor du temple l'offrande gracieuse d'une jeune muse qui, contre les Pindares et tant de grands poètes, plut aux dieux et gagna le prix. Les seuls exercices gymniques étaient dans l'origine ceux des adolescents, dont l'âge et l'élégance représentaient le dieu de Delphes. Jeux véritables, et non combats, étrangers à la violence emportée des combats d'athlètes qui s'y mêlèrent plus tard. Cet art aussi est malgré lui qu'Apollon accepta dans ses fêtes la course bruyante des chars, leurs tumultes, les accidents, souvent sanglants, tragiques, dont ils étaient l'occasion. Tout cela fut importé d'ailleurs, aussi bien que l'ivresse, l'orgie d'un autre culte, aussi bien que la flûte à sept tuyaux, l'instrument de Phrygie, dont le souffle barbare imposait silence à la lyre. Celle-ci, faible et pure, avait cette supériorité qu'elle n'absorbait pas la voix humaine. Au contraire, elle la soutenait, l'embellissait et lui marquait le rythme. Elle était l'amie, l'alliée de cette noble langue où la Grèce voyait le signe supérieur de l'homme, le langage articulé, distinct. Le barbare, c'est le bégayeur. Les barbares et leurs dieux ne parlaient pas, hurlaient ou soufflaient dans ces instruments qui brouillaient la pensée et barbarisaient l'âme. C'était au son de cette flûte compliquée, dissonante, des faits lugubres, orageux et fiévreux qu'on menait les hommes au carnage. Les laideurs de l'orgie sanglante qu'on appelle la guerre faisaient horreur au dieu de l'harmonie. Elle entrait dans le cœur dès qu'on mettait le pied au sol sacré de Delphes. L'harmonie y était dans le silence même. Sur la plaine et les monts, au bois sacré, on la sentait partout. Au temple, au pied du dieu, devant sa lyre muette, on entendait en soi un céleste concert. La nuit et les portes fermées, au dehors des murs, s'exhalaient de faibles et suaves accords, comme si, à ces heures solitaires, la lyre frémissait vaguement et vibrait des pensées du ciel. La grande lyre devant Apollon, c'était la Grèce elle-même, par lui réconciliée. Tous les peuples helléniques arrivaient à ses pieds, sacrifiaient ensemble, mêlaient et la parole et l'âme. Les dialectes spéciaux, le léger ionique, le grave et fort dorien, l'attique, adoucis l'un par l'autre, se rapprochaient, communiaient ensemble dans la langue de la lumière. J'appelle ainsi la langue grecque. La lumière, qui écarte les funestes malentendus, est un puissant moyen de paix. Elle rassure, rassérène l'âme. On ne hait guère, On ne tue point l'homme avec qui l'on peut s'entendre, en qui, par les idées, les sentiments communs à tous, on a trouvé son propre cœur. Si quelque chose put rapprocher les hommes et les cités, les confondre, amis, ennemis, ce fut de voir, devant cet autel pacifique, leurs enfants qui chantaient ensemble, parés du laurier fraternel. Pleins de joie, d'intérêt, ils contemplaient ce jeune monde sans haine encore, sans connaissance même des anciennes divisions. Eux-mêmes ne s'en souvenaient guère. Ils étaient tous à ce spectacle charmant de la Grèce future, qui s'essayait déjà, luttait de force et d'élégance, de grâce et de beauté. Cela dominait tout, mettait loin toute autre pensée, n'en laissait que d'admiration, d'art et de bienveillance. Tel, plus que son fils même, louait le fils de l'ennemi. Les effets en furent admirables. Chaque ville envoyait, avec ses jeunes combattants, de nombreuses députations d'hommes mûrs et graves qui devaient les soutenir et juger ensemble des jeux. Ces députés amphictyons réunis se trouvaient formés un corps considérable qui semblait la Grèce elle-même. Souvent, dans les querelles ou d'hommes ou de cités, on les prit pour arbitres. Le faible, l'opprimé, s'adressait volontiers à eux et les priait d'intervenir. Sans y songer, ils devinrent peu à peu les juges souverains de la Grèce. Ils étaient forts du Dieu, siégeant à son autel, parlant comme en son nom. Ils étaient forts aussi de l'autorité redoutée des deux déesses, Cérès et Proserpine, qu'ils honoraient aux Thermopyles. Qui méprise Proserpine en meurt. Cette heureuse superstition, très puissante au début, contint et désarma les cités violentes qui auraient dépeuplé la Grèce. Le serment des Amphictyons semble dicté par l'horreur qu'inspiraient les exterminations récentes, la mort des villes, d'Élos et de Mécène. Ils juraient de ne jamais détruire une ville grecque et de ne pas lui détourner ses eaux courantes. Dans la Grèce, sèche et si coupée, où l'eau, perdue si vite, est pourtant la vie même, elle était mise, comme en Perse, sous la garde sacrée des dieux. Premier type et premier exemple, faible encore mais fécond, de fédération fraternelle, de la grande lyre sociale qui, laissant à chaque corde sa liberté, son charme, les unit d'amitié, éteint les dissonances, et si elles surviennent, par un doux ascendant, les fait rentrer dans l'harmonie. Apollon ne s'en tint pas là. Sur le théâtre même des guerres les plus cruelles, au champ fumant encore des cités du Péloponnèse, il tenta de fonder la paix, tout au moins la paix passagère que donnaient les fêtes et les jeux. Dans un songe où il apparut, il conseilla aux Éléens d'élever un autel aux dieux de leurs ennemis, à Hercule, le patron de Sparte. On obéit. Par un sacrifice admirable des haines et des rancunes, de 4 ans en 4 ans, l'autel des Éléens unit la Grèce à Olympie comme elle l'était à Delphes. Vainqueurs, vaincus, Grecs des monts, Grecs des îles, Sparte et Athènes y vinrent, honorèrent leurs dieux mutuels. Pour quelques jours au moins, la guerre cessait. Cela semblait si doux qu'on fit un dieu de la trêve même, divinité aimable qui changeait les esprits et souvent amenait sa fille, la charmante, l'adorée, la paix. Ces fêtes générales et les particulières, presque aussi générales, comme les Panathénées d'Athènes qui attiraient une affluence immense, couvraient les routes de peuples, voyageurs curieux, pèlerins, athlètes, chantres errants. On y rencontrait les dieux mêmes qui parfois voyageaient, qu'une ville amie appelait pour honorer une autre ville ou pour se protéger contre quelques fléaux d'épidémie, de guerre civile. Grand mouvement, mélange, hospitalité mutuelle, échange de fêtes et de rites, de chants et de fraternité. Sur les hommes et les dieux, sur ces foules et ces fêtes, sur tout ce mouvement où rien ne discordait, trois lumières se croisaient et faisaient l'unité. Aux splendeurs enflammées, poudreuses d'Olympie, répondait l'éther fin, azuré de la Vierge attique. Et sur le tout flottait, dans un charme divin, le chaud rayon d'or d'Apollon.